ajouter ou substituer un autre thème qui me semble être un point commun, outre le temps des femmes qui procède d'une certaine évidence, grandir. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qu'on va discuter. On verra avec Catherine Cusset pour la définition du bonheur, publiée chez Gallimard, si elle est d'accord avec l'un des aspects si elle est d'accord avec cette assertion pour l'un des aspects de son livre. Ma meilleure amie, Fabienne Jacob, publiée aux éditions Buchet-Chastel, et puis Géante de Muriel Magellan aux éditions Miel et Barreau. Alors, non, promis, je ne me suis pas inspirée de votre titre, même si en effet, le fait de grandir est aussi au sens premier dans votre livre. Et puisque je vous tiens, Muriel, dites-nous donc de quoi il s'agit. Quelle est cette histoire ?
C'est l'histoire de Laura, qui est une jeune femme qui vit dans le sud-ouest de la France, à Marmande, qui est passionnée de littérature japonaise, qui lit beaucoup, beaucoup de romans japonais. Elle travaille dans l'entreprise de son mari à la gestion d'une entreprise de peinture et rénovation. Et voilà, elle a une vie un peu réglée comme ça. Et un jour, il y a un grand écrivain japonais qui est invité à la médiathèque de Marmande. Donc, bien évidemment, elle va l'écouter. Sauf que le spécialiste de littérature japonaise qui devait arriver de Paris est bloqué dans le train. Et donc, la responsable de la médiathèque se précipite vers Laura et lui dit « Laura, je vous en supplie, participez à l'entretien avec cet écrivain parce que le journaliste de La Dépêche, lui, ne connaît pas si bien son œuvre. » Et elle est prise d'un petit vertige, mais elle se lance et ça se passe très bien. Et donc elle a une sorte elle est assez grisée. D'abord l'écrivain le souligne que c'est très, très singulier la façon dont elle lui parle, et elle est grisée, prend conscience de ses connaissances, et quelques jours après se passe un phénomène un peu étrange dans sa vie. Elle rentre plus dans ses chaussures et elle constate qu'elle grandit. Voilà.
Il y a de l'histoire de Laura,
oui.
Donc cette ascension verticale,
oui.
Et puis il y a une autre histoire, un journal avec du André Makin dedans.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ça ?
Oui, j'alterne avec des courts chapitres que j'appelle journal, qui partent d'une anecdote qui s'est passée après la grande librairie quand j'ai présenté mon précédent roman qui s'appelle « Changer le sens des rivières ». Je rencontre Andrei Makin, l'écrivain russe, est invité. Et à la suite de cette émission, il y a un petit pot où on boit un verre. Et je vais le voir et je lui dis à quel point j'ai trouvé son livre tragique. Et il me dit, je fais court, hein, mais c'est raconté plus progressivement dans le roman. Il me dit, Muriel, ce qui est tragique, ce n'est pas mon livre. Ce qui est tragique, c'est que vous êtes très belle, mais que vous allez vieillir.
Ronsard.
Bonsoir. Donc je fais un petit gloops, mais pas tant que ça, parce que je suis, je sais pas, donc j'interroge d'ailleurs pourquoi je ne fais pas un si gros gloops que ça, parce que j'ai des amis qui m'ont dit qu'elles auraient réagi beaucoup plus. Je lui dis, mais cher Andrei Makin, c'est déjà fait. J'ai déjà vieilli. Et la courtoisie de dire, mais non, pas du tout, vous n'avez pas vieilli, mais vous allez vieillir, et c'est tragique. Et écrivez là-dessus, écrivez sur la vieillesse des femmes. Moi, je ne peux pas, je suis un homme, mais vous, faites-le. Et donc, je pars de cette anecdote, et je tire le fil des réflexions que ça m'inspire, en alternant avec cette croissance et cet épanouissement de Laura dans la partie roman, en m'interrogeant sur la question, est-ce qu'il faut écrire sur la vieillesse des femmes ou est-ce qu'il faut écrire sur leur déploiement ? Voilà.
Vieillir ou grandir ?
Vieillir ou grandir, oui.
Fabienne Jacob, vieillir ou grandir ? Non, vous avez votre petit micro à vous. Avec le Covid, chacun son micro, c'est est-ce extrêmement confortable.
Je partage le jeu dans la vie de façon générale.
Est-ce qu'on peut intervenir ou pas du tout, ou après sur la, la, sur
ce on présente, puis d'accord. Après, alors, vraiment, quand vous voulez, Catherine. Hein.
Mais justement, je vais rebondir sur l'âge, parce que moi, c'est déjà fait. J'ai suivi le précepte de d'André Malkin sans le connaître, parce que j'ai déjà écrit un livre qui s'appelle « Mon âge », où je me réjouis un peu de vieillir, parce que ça m'a apporté beaucoup de sérénité, beaucoup de joie intérieure. Donc, tant que ma vieille carcasse de corps me porte, allons-y, gaiement. Donc, l'éloge de l'âge chez les femmes, oui et oui. On perd des choses, mais on en gagne d'autres, et ô combien.
Je crois qu'André Malkin voulait une tragédie. Donc
Oui, non, là, il n'y aura pas de tragédie chez moi. Voilà. Mais, donc, grandir, oui, c'est aussi un peu le thème de mon vieillir.
Oui.
Aussi,
ma meilleure
le thème
amie.
De ma meilleure amie. Voilà, parce que c'est l'histoire de trois jeunes filles provinciales. Au début, elles sont jeunes filles. Ça court sur toute une vie. Elles partagent, aujourd'hui, on dirait une coloc, mais avant, on aurait appelé ça une communauté, plutôt. Même si je brouille un peu les temps, on ne sait pas quand ça se passe, mais ça se passe dans les années 80, 90. Mais je crois que les jeunes filles d'aujourd'hui, celles qui ont lu le livre, sont venues me dire qu'elles se sont reconnues quand même dans cette coloc. Donc elles partagent tout, trois jeunes filles, dont une très charismatique. Et elles partagent tout, y compris les choses que normalement on ne partage pas, comme les amoureux. Mais c'était peut-être une autre époque où il était encore possible de les partager. Depuis, il y a eu quelques maladies quand même qui sont passées par là et quelques puritanismes et autres engeances.
C'est pas fini.
C'est pas fini, même que le début. Et donc, elles mènent une vie absolument littéraire parce qu'elles sont étudiantes en lettres, donc ça compte. C'est pas une façon de. Elles ne font pas lire, pas que lire la littérature. Elles la vivent vraiment dans leur chair, dans leur vie quotidienne, elles appliquent leur vie est très littéraire et tout se passe de façon très libertaire et très joyeuse. C'est un foutoir très très joyeux jusqu'au moment où l'une d'elles, la plus charismatique, Sambre, claque la porte et c'est un peu une allégorie de la jeunesse qui fout le camp. Évidemment, c'est pas seulement l'une des trois jeunes filles qui fout le camp, c'est la jeunesse. Et après, il faut trouver en soi des réponses pour survivre d'abord au grand tsunami qui est passé par là. Et aussi, il faut faire face à la fin des études, qui pour moi a été une tragédie, parce que j'aurais voulu être étudiante toute ma vie. J'essaie de l'être à ma façon, en continuant de lire et en continuant d'être un peu curieuse, mais j'aurais vraiment voulu continuer à fréquenter les maîtres, les profs. J'aurais voulu vivre toute ma vie. L'état d'étudiant, pour moi, c'est le nirvana absolu. J'aurais voulu toute ma vie que ça continue. Malheureusement, ça s'arrête un jour.
C'est un livre de nostalgie ?
Non, c'est un livre, il faut faire face. Il faut trouver en soi les réponses, il faut trouver en soi la vie intérieure. Il n'y a que la vie intérieure qui permet de faire face à cette tragédie qui est la fin des études, le début de la vie adulte, les injonctions qui pèsent sur tout humain, notamment les femmes. Les femmes, elles ont injonction peut-être d'avoir des enfants, de fonder une famille. Ouh là là, de mener plusieurs vies de front, d'être jolie, intelligente, efficace, et ouh là 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 là, bon, c'est bien, ce serait un autre livre que j'ai déjà écrit qui s'appelle Corps. Donc les injonctions qui sont au-dessus de la caboche des femmes sont multiples. Mais maintenant, les hommes en ont aussi quand même, hein, si j'ai bien cru comprendre, il y en a quelques-unes aussi sur la couenne des hommes. Et donc il faut faire face, et je crois que les réponses ne peuvent venir que de la vie intérieure, de cette sorte de dilatation qu'on a en soi, qui est intérieure, mais qu'il faut trouver. Il faut la trouver. Il faut la chercher, et qui cherche trouve. Hein.
C'est le parcours.
C'est le parcours d'Elga qui arrive à être fidèle à ses idéaux de jeunesse, même si elle a quelques heures au cadran. J'ai l'impression qu'elle a trouvé.
Et puis Rosie,
elle a trouvé
et
des
Anders,
ressources.
Oui.
Et Rosie, qui est joyeuse, elle est née joyeuse. On a l'impression qu'elle a trouvé que les gènes, ses gènes italiens, lui ont donné les réponses depuis le berceau. Et quant à Sambre, bah, son avenir est beaucoup plus incertain. Il est mis un peu dans l'ombre dans le récit parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle devient. On craint le pire et on peut craindre le pire pour elle. Alors que c'était celle qui était la plus armée dans la vie, la plus... Tous les gens qui voyaient le trio misaient tous leurs copecs sur cette jument-là, parce qu'elle avait vraiment tout pour elle.
C'est une communion que vous avez avec des personnages fictifs, ou c'est quand même très emprunté à vos propres souvenirs?
Oui, le début du moins. Oui, le début, j'ai partagé une colloque, mais comme beaucoup, c'est une expérience qu'on partage beaucoup, hein, évidemment, parce que les loyers sont chers, donc on colloque, on se met en communauté et après on partage des expériences. C'est aussi un livre bien sûr sur l'amitié féminine, parce que j'ai cru comprendre que quelquefois l'amitié féminine avait mauvaise presse. Maintenant on parle de sororité, je m'en réjouis, parce que moi quand j'étais plus jeune, on disait souvent ah là là, non, l'amitié féminine j'y crois pas, il y a toujours des rivalités. Mais quoi comme rivalité? Non, alors... pour moi j'ai pas connu ça, et je m'érige contre ça, c'est absolument... Absolument,
Oui, on y reviendra, Fabienne, notamment à travers le livre de Catherine. Catherine Cusset, deux femmes dans la cinquantaine se rencontrent.
C'est drôle, c'est pas comme ça exactement que je décrirais mon livre. Par contre, je reviens à ce thème dont tu parlais, Karine, grandir. Ça aurait pu être le titre de mon roman, mais presque de tous mes romans finalement. Oui. Grandir, ils pourraient tous s'appeler Grandir, Grandir 1, Grandir 2. Parce que c'est vrai que ce qui m'intéresse vraiment dans l'écriture, c'est ce mouvement du temps. Et c'est qu'est-ce qui en nous justement grandit, mais un peu ce dont tu parlais, Muriel, c'est cette opposition entre le grandir, c'est positif, c'est le déploiement, c'est vraiment ce qui va vers ce qui en nous s'améliore, si on peut dire, alors que vieillir, c'est un terme négatif, quoi. Et alors contrairement à toi, Fabienne, moi j'ai pas de nostalgie de mes études parce que j'ai fait des classes préparatoires. Et que j'ai passé ma vie à travailler de 7h du matin à minuit pendant plusieurs années. Donc ça, c'était un peu dur. J'ai pas de nostalgie. Donc mes deux personnages, Ève et Clarisse, on les prend à l'adolescence. C'est pour ça que j'ai réagi sur la rencontre de deux femmes de 50 ans. Parce que le roman commence, elles ont en fait une 16 ans et puis l'autre après 18 ans. Et on les suit pendant 40 ans. 40 ans de vie jusqu'à la fin de la cinquantaine. Et c'est vraiment qu'est-ce qui, chez ces deux femmes, change enfin, à travers le temps. Comment elles grandissent, en effet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, de leur enfance, résiste? Donc, Clarisse, c'est celle qui choisit de ne pas faire d'études, de partir voyager toute seule à 20 ans en Asie du Sud-Est, qui se marie très jeune, qui a des enfants très jeunes, qui se retrouve ensuite divorcée avec trois enfants, trois fils dont elle doit s'occuper, en mer vraiment abandonnée et seule. Le mari n'est plus du tout là. Donc vraiment, elle se confronte à cette réalité très dure pour une femme quand même. Et en même temps... et c'est une femme passionnée, sensuelle, qui garde toujours en elle une sorte d'énergie que je vais appeler érotique, mais qui n'a pas juste à voir avec la sexualité. C'est une énergie vitale, en fait, l'énergie érotique.
Libido, enfin, au sens freudien.
Voilà. Et tandis que Ève, qui donc elles sont toutes les deux nées au début des années 60, Ève, qui est la plus solide des deux, qui part vivre aux États-Unis, qui garde le même mari pendant 30 ans, qui elle a deux filles aussi, et qui a vraiment une stabilité à la fois professionnelle, enfin elle change de métier, elle était professeure, elle devient cuisinière, mais elle réussit un peu tout ce qu'elle entreprend, et elle a cette stabilité conjugale, familiale. Elle s'aperçoit au fil du temps qu'elle n'arrive pas à lâcher prise, et qu'elle est tout le temps dans le contrôle. Et alors, je ne sais pas quel est le rapport avec grandir. En fait, le problème qui se pose pour Ève, c'est vraiment vieillir. Et c'est vraiment comment continuer à vivre pleinement, à vivre dans le moment présent, à vivre intensément, à garder son désir, cette énergie dont je parlais, cette énergie vitale, alors que les années passent. Mais vieillir, le vieillissement, c'est pas la vieillesse non plus. Hein, mais mon roman s'arrête, les deux personnages ont la fin de la cinquantaine. Enfin, il s'arrête... je vais pas raconter la fin.
Non.
Donc, ces années, enfin, je pense qu'il y a un moment difficile dans la vie d'une femme qui est un... qui est un peu plus tard maintenant que ce n'était autrefois. C'est plus vers la cinquantaine, voire la soixantaine, alors qu'autrefois, c'était la femme de 40 ans. Il y a quand même vraiment eu un changement, un déplacement. Pourtant, biologiquement, la ménopause doit avoir lieu au même âge, je ne sais pas.
Elle n'allait pas jusque-là.
Ouais, c'est ça, elle mourait avant. Mais voilà, donc c'est vrai que ces deux femmes vivent de façon très, très différente cette période-là, puisque... pour Ève, il y a la maladie, il y a un cancer, il y a qu'est-ce que veut dire ce cancer dans sa vie qu'elle pensait très heureuse. Oui. Et pour Clarisse, qui a en même temps la hantise de la solitude et de l'abandon, il y a quand même toujours... elle est dans la séduction et elle reste extrêmement séduisante pour les hommes.
Elle reste disponible à la vie.
Oui.
C'est peut-être ça qui fait qu'on grandit plutôt qu'on vieillit. Parce que Ève est plus... dans la volonté, dans l'incapacité de lâcher prise. Peut-être que c'est ça qui fait qu'on vieillit, quand on n'arrive pas à lâcher.
Je ne sais pas. Je ne vais pas vous répondre. Mais justement, cette opposition, je voulais tout à l'heure dire quelque chose à Muriel, c'est qui opposait le grandir et le vieillir dans son roman, avec le personnage de la narratrice qui vieillirait, tandis que Laura, la jeune femme passionnée de littérature japonaise, grandirait, donc serait dans un déploiement. À la lecture de mon très beau roman, j'ai pas eu ce sentiment. J'ai été incroyablement angoissée par le grandissement de Laura, de cette jeune femme qui ne cesse de grandir et qui perd tout. Son mari, ses amis, son frère, son travail. Mais ça m'a donné une angoisse, mais terrible. Et pour moi, quelque part, c'est au contraire ça, vieillir. C'était quelque part cette hantise. Mon roman, en fait, il est né de ça, de la hantise de la perte. De la hantise, de la perte, qu'incarne le personnage de Clarisse, quand même, à qui sa mère dit à un moment « Toi aussi, tu vieilliras seule ». Cette mère célibataire, abandonnée par son mari quand la petite avait 2 ans, alcoolique, qui ne s'est jamais remariée, mais qui en même temps aime sa fille unique. Mais on a beau aimer son enfant, on transfère souvent sur lui les hantises de notre vie, les angoisses de notre vie. On projette sur l'enfant les angoisses qu'on a. Et voilà. Et donc, j'associe, moi, au vieillissement, cette peur de la solitude. Je pense que le vieillir seul est quelque chose qui me terrifie. Et donc, pour moi, Laura, mais c'est terrible. Il y a le personnage d'Élisère, mais je vois cet abandon. Elle grandit et du coup, tout l'abandonne. Quoi. Donc,
il faut rassurer effrayant. Catherine.
Non, tout ne l'abandonne pas. Effectivement, il y a Élisère qui est là. Et puis, oui, néanmoins, je pense que jusqu'à un certain stade, grandir, c'est-à-dire se déployer, ça attire les autres. Et après un certain stade, ça fait peur. Et j'avais quand même envie de raconter, après, il y a une fin, et je vous laisserai découvrir, mais... J'avais envie de passer par ce moment où, quand on se déploie trop, tant dans sa sphère intime que dans le collectif, dans le social, on crée de l'appréhension. C'est ce qui se passe pour les femmes aujourd'hui. Il y a un vrai mouvement de déploiement des femmes. Et on voit bien que, tant chez les femmes elles-mêmes que chez les hommes, ça secoue, les lignes bougent, on a peur, on voit bien que on dit mais est-ce qu'on ne va plus pouvoir se faire la cour, mais alors jusqu'où vont-elles aller, mais donc cette croissance, j'avais envie de l'explorer jusqu'au moment où justement ça t'angoisse.
J'ai quelque chose à dire encore.
Oui, vas-y.
En fait, c'est ce qui est assez fascinant. Excuse-moi, Karine, c'est que nos deux maris s'appellent Paul.
Oui,
ça, c'est quand même assez étonnant. Donc, nous avons Paul, qui est quand même le type du bon mari.
Ouais,
c'est le bon
vrai.
Mari, Paul. Il y a des Pauls dans la salle. Et donc, au début, il y a ce couple, cette petite femme boulotte, vraiment dans cette relation très tendre et amoureuse et fusionnelle, un peu avec ce mari Paul, qui est le bon mari. Quand elle commence à grandir, il est là, il est rassurant. Et bien, au bout d'un moment, elle grandit trop, il l'abandonne pour une autre femme qui grandit pas. Mais j'ai trouvé ça terrible. Mon Paul à moi, il quitte jamais mon Ève. Non, je sais pas si elle grandit ou pas.
Parce qu'elle grandit moins, Et elle se libère secrètement.
Ça m'a fait peur.
Ton Ève, elle se libère en secret.
Vrai que ses pieds grandissent pas. Ça, c'est
ouais,
ça.
Mais oui, c'est ça. Parce que toute la différence est là, en vérité. Ève se libère, mais ne le dit pas à Paul. Elle a la possibilité de ne pas le dire à Paul. Je grandis, mais je ne te le dis pas, ne t'inquiète pas. Alors que la mienne, elle ne peut pas ne pas le dire. Elle grandit, oui. Vraiment. Donc, mais je trouve ça que se voit.
Ce que tu as exploré, à mon avis, très intéressant, c'est la ligne frontière entre la beauté et la monstruosité. Donc cette femme qui était petite oui. Et boulotte, elle grandit, elle devient longue, vous voyez, elle grandit, elle s'allonge, 1m80, elle est vraiment au summum de sa beauté. Et puis après, elle devient un monstre, finalement, 1m90, 2m. Quand vous voyez, ça vous est arrivé de rencontrer une très très grande femme? Moi, ça m'est arrivé. Il y a un côté, on a un peu de pitié. Une femme de 1m90, 2m, on se doute que ça ne doit pas être facile. Je suis très littérale, moi.
Non, c'est la question de la conformité aussi. C'est un des thèmes de votre livre, Muriel.
Oui, c'est à partir du moment où on se démarque, à quel moment où on se libère, à quel moment on fait peur. À quel moment on nous dit c'est bien, on nous y encourage. Et quelle est la frontière qu'on franchit qui fait que tout à coup on n'est plus tout à fait d'accord avec votre croissance? Ce que dit Laura très régulièrement, c'est mais quel est le problème? Je grandis, mais quel est le problème? Je ne souffre pas, je vais bien, je vais même de mieux en mieux. Pourquoi est-ce que c'est un problème pour vous? Et c'est vrai que la monstruosité crée ça des fois. Enfin.
C'est très intéressant, oui. C'est la question du rapport à la société. On vit en société, on ne vit pas seul en fait. On vit en société, donc forcément... d'ailleurs, c'est aussi un sujet de mon roman, c'est pour ça que j'ai créé deux personnages, parce qu'on voit sa vie par le regard de l'autre et par la façon dont on imagine. D'abord, on se compare à l'autre, toujours, et en même temps, on se perçoit à travers le regard de l'autre. Et c'est tout le problème de Laura, c'est qu'en fait, elle est très belle dans une société. Elle serait toute seule au monde, elle serait splendide, elle va très bien. Mais c'est le regard des autres qui fait d'elle un monstre, en fait. Moi, j'aurais voulu que tu arrêtes sa croissance à 1m80, qu'elle reste très très belle, que son mari regrette pour toujours de l'avoir quittée, bien fait pour lui. Que l'autre, je sais pas, de raptis. Voilà.
Fabienne.
Non, moi je suis pas du tout d'accord. Moi j'aime les femmes hors normes, et je les trouve très belles. Et je regarde surtout les femmes qui ressemblent, qui sont pas du tout dans les canons. Et non, vive les grandes femmes, vive les femmes grosses, vive les femmes. Non, bienvenue. Je les invite toutes à ma table et je les trouve très belles. Et au contraire, 2 mètres, je les accepte aussi. Je les regarde et je me dis oui, ça doit être un peu encombrant, peut-être au lit. Je me dis peut-être qu'elles dépassent un peu avec leurs pieds, mais sinon pour continuer de rire, parce qu'il faut rire, surtout en ces périodes qui sont pas très drôles. Ma sœur m'a dit, tu verras, en vieillissant, il y a toutes tes extrémités qui vont pousser. Comme j'ai déjà des grands pieds, je me suis beaucoup inquiétée. On dit même les oreilles. Donc tous les matins, je surveille mes oreilles. Pour l'instant, la métamorphose n'a pas eu lieu, mais je vais me transformer en elfe, peut-être. Mais bon, j'accepte aussi ce qui va m'arriver. J'accepte. Parce que je crois qu'il faut absolument accepter, parce que si on commence, je crois que vraiment, les femmes, les seules femmes que je ne trouve pas belles, il n'y en a pas beaucoup, mais les seules que je ne trouve pas belles, je le dis, attention mesdames, je vous donne un conseil, j'espère que vous allez l'appliquer, c'est l'amertume. Ça, vraiment, méfiez-vous de ça, parce qu'une fois que vous êtes amère, là vraiment la beauté fout le camp. L'amertume, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Il faut pas se mettre ça le matin en guise de... Il faut pas prendre son pot de crème d'amertume le matin et le soir en guise de crème du soir, parce que là, vraiment, c'est un anti-beauté. Et c'est le seul que je connaisse. Mais les autres...
Je crois que tout va bien sur ce plateau.
Le fait est que dans le roman de Muriel, c'est ce qui arrive à son personnage. C'est pas moi qui l'accepte pas. Moi, je suis pas dans le roman de Muriel. j'ai rien fait. Donc c'est vraiment... t'es d'accord, c'est
l'entourage.
C'est l'entourage du personnage.
Parce que j'explore la notion de déploiement des femmes aujourd'hui, et de la tempête dans laquelle on est, qui est que d'un côté, on peut s'interdire de se déployer parce qu'on a peur de ça, c'est-à-dire parce qu'on a peur de qui va rester. Si je deviens dans mon couple Si je me déploie plus que mon mari, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il va donc on peut le faire en secret? Est-ce qui m'intéressait vraiment? Et je crois que c'est un peu à la façon du portrait de Dorian Gray. Je voulais incarner cette croissance dans laquelle nous sommes, des femmes, aujourd'hui, tant dans la sphère intime que collective, et l'incarner par cette métaphore que dont je tire le fil. Et je crois que le petit frisson, tant mieux si on l'a à la lecture, c'est que je tente de créer un monde extrêmement réel autour de Laura, le monde dans lequel nous sommes, et de faire ressentir, plutôt que de réfléchir, de faire ressentir au lecteur ce à quoi notre époque est confrontée. Et donc oui, ça isole, mais il y a un photographe qui s'appelle Didier Zer, qui est un jeune homme, qui a l'avantage donc d'être un artiste et donc de pouvoir regarder cette croissance hors norme avec le décalage que permet parfois le regard d'un artiste, c'est-à-dire qu'il s'est transformé, il sait voir la beauté où on ne la voit pas tout de suite quand on est justement très, très terre à terre. Lui, il la voit et il est jeune. Il est jeune, donc cette puissance qu'elle dégage ne lui fait pas peur. Alors que son mari, qui est de sa génération, et les femmes certaines femmes qui se posent en rivalité n'acceptent pas qu'elles les dépassent. Mais un jeune homme, lui, parce que j'ai la sensation quand même que les générations qui arrivent s'habituent au déploiement des femmes. Et heureusement, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on vit là, j'ai l'impression que c'est assez unique, c'est que trois générations de femmes, c'est-à-dire ma mère a connu le féminisme, moi je le connais, et nos enfants, moi j'ai un garçon, je ne peux pas dire ma fille, mais si j'en avais une je le dirais, le connaissent. Donc on est trois générations de femmes à s'être posé la question de l'autonomie, de l'indépendance, de la libération, de la croissance. Trois générations de femmes. Je pense que les hommes sont soumis à un mouvement qui est puissant en réalité. Donc c'est intéressant ces secousses, mais tant mieux. Moi, je crois que des secousses naissent de belles choses.
J'ai l'impression qu'on a conçu le déroulé de cette rencontre ensemble, Muriel, parce que justement, j'avais envie de vous demander à toutes les trois que sont et comment sont les hommes dans vos livres, justement, dans ces livres-là. Comment parlez-vous des hommes? Parce que, comme le dit Muriel, oui, votre fils est aussi bien concerné par le féminisme, puisqu'on ne peut pas faire les uns sans les autres, de toute manière. La société est composée d'hommes et de femmes, quelles que soient leurs orientations sexuelles. Et je dis leurs orientations, parce qu'on peut en avoir plusieurs. Comment sont les hommes chez vous, dans Ma meilleure amie?
Je vais d'abord parler de comment je les vois en ce moment, et après oui, je reviendrai à mon livre. Je les plains un petit peu en ce moment, je trouve qu'on ne les entend pas beaucoup. Ils sont devant toutes ces femmes qui grandissent et qui se déploient de toutes parts. Messieurs, où êtes-vous? Où êtes-vous cachés dans des trous de souris? Allez, enfin, faites-vous un peu entendre, nom d'une pipe. Qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? Moi, je m'interroge. Je me demande où sont les hommes. Voilà, ça c'est moi, Fabienne Jacob. Maintenant, dans mon roman, moi je suis pas opposée aux hommes. J'essaie d'être, je fais table ouverte, hein, donc table ouverte aussi pour les grandes femmes, celles qui ont des grands pieds, des oreilles qui poussent, etc. Mais aussi pour les hommes. Mais c'est vrai qu'ils ont vécu, on leur laisse un petit temps de latence parce qu'ils ont vécu non pas des décennies mais des millénaires dans la domination. Donc il faut quand même qu'ils trouvent quelques ressources. C'est normal. Laissons-leur une chance. Mais maintenant, dans mon livre, j'en ai un qui, ma foi, n'est pas trop dominant. Il se pose beaucoup de questions. Il est marié, le pauvre, il s'ennuie dans le mariage. Il essaie de se désengluer de tout ça. Et lui aussi, il trouve un peu la voie de sortie par la vie intérieure. Donc, pour moi, mon personnage homme, je le trouve bien, il est tellement bien qu'il pourrait être une femme.
Mais justement, il s'appelle Anders, il est autre.
Anders, oui, autre. Ne pensez pas à l'assassin de l'île norvégienne. J'aime ce prénom parce qu'il me vient d'un cinéaste norvégien que j'adore, qui a fait Oslo 31 août. Je ne sais pas si certains l'ont vu dans la salle, mais c'est un film culte qui est sorti il y a 10 ans pour moi. Et j'ai voulu le rendre hommage en l'appelant Anders. Et puis j'aime bien les prénoms du Nord. Je cherche souvent mes prénoms du côté du Nord. Et Anders, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Illy ?
C'est pas moi
on a envie de le connaître, on a envie de le connaître.
Oui, mais justement, hein, quand vous disiez qu'il était, même, qu'il aurait pu être une femme, il s'appelle Anders, c'est-à-dire que peut-être qu'il Anders. Tranche aussi sur une représentation du masculin à une certaine époque
c'est
aussi.
C'est ça, on va vers c'est évident qu'on va vers un monde où les genres seront moins genrés. Je m'interroge, je ne sais pas du tout ce qui va advenir. Je vois le passeport américain qui est fait figurer neutre. Je ne sais pas ce qui va advenir. J'ai toujours vécu dans un monde où les genres étaient définis et je ne sais pas. Là, je ne peux pas savoir. De toute façon, ça fait longtemps, depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment le sentiment physique qu'il y a du masculin en moi aussi, hein, parce que je me défends, parce que j'ai étudié comme un garçon, même plutôt parfois mieux, notamment dans les petites classes. Donc je n'ai jamais été trop... Mais c'est peut-être parce que je suis née déjà à une époque où le féminisme avait fait ses armes, je ne sais pas, mais ce qui m'intéresse, c'est de vivre comme un être humain. Voilà. Homme ou femme, comme un être humain, c'est-à-dire libre, non dominé. C'est ça que je recherche dans ma vie et j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut rechercher.
Les filles réussissant mieux à l'école que les garçons.
Dans un premier temps. Après, ça s'inverse un peu dans les classes supérieures.
Plus maintenant. Ouais.
Plus maintenant. Je pensais que c'était encore un peu le cas, tant mieux.
Oui. Je voyais Catherine qui révisait son livre. C'est bon ? Ça correspond à ce que vous avez écrit ?
Non, c'est parce que... Donc les hommes, hein, c'est ça, les hommes. On m'a un peu dit que parfois que dans mon roman, il y avait beaucoup de personnages masculins qui n'étaient pas extrêmement positifs. Mais évidemment, Clarisse, elle est très souvent abandonnée. Et elle ne fait pas forcément des bons choix. Mais il y a un moment, enfin dans un des chapitres du roman, quand elle a une cinquantaine d'années, son rêve, c'est de devenir écrivain. C'est un rêve qu'elle a toujours... qu'elle a jamais poursuivi parce qu'elle s'est occupée de ses garçons, parce qu'elle pouvait pas. Et puis là, elle écrit, elle fait partie d'un atelier d'écriture et elle écrit une histoire tout à fait basée sur sa vie où elle a une liaison avec un homme beaucoup plus jeune et elle donne cette histoire à lire au groupe. Et la première partie, ils avaient adoré tous et elle était vraiment extrêmement heureuse de sentir qu'elle y arrivait finalement. Et elle leur donne la fin de l'histoire et la réaction du groupe est... Tout le monde dit, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Ton histoire est forcément tragique. Une femme de soit parce qu'elle a un peu changé, elle a agrandi l'écart d'âge. Une femme de 60 ans qui a une liaison avec un homme de 25 ans, ça ne peut que se terminer mal. C'est un personnage pathétique, cette femme. Elle refuse de comprendre qu'elle vieillit. Elle s'accroche à ce garçon. Enfin, ça va très mal se terminer. Et quand elle sort du groupe d'écriture, elle est assommée parce qu'elle a l'impression que on lui a renvoyé d'elle un miroir, enfin de la vieillesse, enfin du vieil. Et elle est vraiment complètement assommée. C'est une nuit qu'elle traverse très très noir. Et d'ailleurs je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, Fabienne, à la fois, enfin, je pense qu'en effet il y a vraiment un changement dans les mentalités, hein, qu'il y a quand même le modèle pour les femmes n'est plus du tout le même et qu'en effet ce dont on parle, grandir, enfin, qu'il y a une forme un rapport à la vie tout à fait différent et beaucoup plus de force, enfin, du côté des femmes. Et en même temps ça me paraît pas si simple, c'est-à-dire qu'il y a quand même toujours c'est les deux faces de la même pièce. À la fois on se sent plus libre, les femmes sont plus libres, et en même temps je pense que en tout cas la hantise, la peur, enfin cette peur de vieillir seule, elle est quand même là. Il me semble pas qu'elle disparaisse complètement. Et donc mon personnage au matin se réveille après avoir franchi une nuit où elle était quand même assez proche de l'idée du suicide, et une amie l'appelle, elle lui raconte ce qui s'est passé dans ce groupe d'écriture. Cette amie, d'abord, est un peu silencieuse et mon père Clarisse pense qu'elle se dit elle aussi que cette relation avec ce garçon très jeune est en effet vouée à mal finir. Et cette amie, finalement, lui dit ceci. Tu es en avance sur ton temps, Clarisse. Ce que ton groupe veut lire, c'est un cliché d'homme blanc hétérosexuel. Dans ton histoire, il n'y a pas de chute, pas de rédemption. Jules, ne méprise pas Suzanne. Il est amoureux de quelque chose en elle, une énergie érotique que la plupart des femmes n'ont jamais eue ou perdent en vieillissant. Suzanne est une femme fondamentalement libre, pas un personnage tragique. Seb ne l'a pas compris. Il est nul, en fait, ce mec. Bon vent. Voilà. Et donc, je ne sais pas si ça correspond à ce dont tu parles là, mais je crois que... Enfin, c'est vrai que ce roman, pour moi, a été inspiré par des femmes autour de moi que je vois qui ont cette forme d'énergie incroyable. Et cette énergie, c'est une flamme. Et c'est une flamme qui attire. Il y a quelque chose de vraiment attirant. Finalement, si on ne voit pas la vie de façon tragique, si on reste dans une sorte de positivité et qu'on attire, on est une lumière et on attire à soi, quel que soit l'âge, quel que soit...
Bravo. Finalement.
Tu es d'accord?
Je souscris à 100%.
Voilà. Et je crois qu'il y a ça et qui est de plus en plus, qui permet de plus en plus aujourd'hui de s'écarter d'une norme qui a été celle pendant très longtemps de la femme. Mais à côté de ça, il y a aussi dans mon roman la fille d'Ève qui lui rapporte une blague qu'elle a entendue à l'université, au collège, enfin à l'université en Amérique, et avec laquelle je suis assez d'accord. Et cette blague, c'est donc qui circule dans les campus américains, que j'ai moi-même entendue, donc parmi les nouvelles générations, hein, c'est pas parmi nos générations à nous, c'est une amie à moi qui m'a rapporté que ça circulait dans l'université de sa fille, et c'est « Dieu, s'il te plaît, donne-moi la moitié de la confiance en soi d'un homme blanc médiocre. » Voilà. Et c'est vrai que je ne sais pas pour quelle raison, mais il me semble quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que les hommes ont plus de confiance en eux que les femmes, plus de persévérance souvent. Et c'est vrai même dans les milieux, jusqu'en des milieux littéraires. Une femme, quand elle a subi quelques rejets, elle a tendance à abandonner. Et pas les hommes. Alors peut-être que ça va changer. Peut-être que la persistance va devenir féminine, parce que finalement, c'est ça, quoi. Il faut s'accrocher.
Ah, il faut vraiment que Muriel intervienne.
Non, je suis très d'accord avec. D'abord, c'est un des passages qui m'a marqué, celui. Que tu viens de lire, Catherine, parce que je me suis dit, au-delà de ce que tu dis, je me suis dit une chose, c'est que ce à quoi je crois aussi qui est présent dans Géante, c'est que ce qui compte, c'est la façon dont on raconte les choses. Si cet ami qui appelle lui re-raconte son histoire à Clarisse, alors que le groupe lui a raconté son histoire d'une façon qui la rend malheureuse et suicidaire. Et le lendemain, on lui re-raconte la même histoire. Et elle repart à la vie, forte de ça. Et ça, c'est présent dans mon roman, parce que je crois beaucoup à ça. C'est l'artiste, c'est l'écrivain, c'est celui qui... Il y a beaucoup, je parle aussi beaucoup des romanciers japonais. Je raconte ce que les romanciers... écrivent. Je pense que ce qui compte, ce qui est en train de se transformer, c'est notre récit de qui nous sommes. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec l'histoire de la confiance, et c'est la métaphore de Laura qui grandit, c'est aussi ça, c'est-à-dire nous n'avons pas, Laura n'avait pas confiance, elle n'avait pas conscience même de ses compétences qui sont bien au-delà de ce que son entourage pouvait croire, et donc cette confiance qui est en train de croître, elle n'est pas gagnée, mais je suis d'accord, elle n'est pas gagnée encore. Je pense qu'on a encore du chemin, et peut-être les jeunes femmes encore héritent de nos doutes, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, un petit mot sur les hommes, peut-être.
Oui, mais surtout les hommes du journal.
Les hommes du journal. Ah, les hommes
du
journal.
Parce que les hommes de Laura, Catherine en a beaucoup parlé.
C'est-à-dire, en fait, tu veux qu'on parle d'André Imakin.
Non. Les autres, fantômes. Justement, des fantômes, oui.
Des fantômes.
Des anges.
Oui, il y a des fantômes dans mon journal. C'est-à-dire que je pars de...
Peut-être pourrions-nous commencer par vous demander pourquoi la littérature japonaise est le grand sujet du livre. Et après, je pense que ça sera plus ça ouvert
pour
les spectres.
De glisser. C'est vrai que dans la littérature japonaise, si vous avez lu, le plus connu d'entre eux, c'est Murakami, mais c'est un bon exemple pour dire que les fantômes s'invitent dans la littérature japonaise. Mais c'est vrai pour Tanizaki, c'est vrai pour Kawabata, c'est vrai. Il y a toujours des morts qui reviennent d'une certaine façon, ou des silhouettes dont on se demande si elles ne sont pas nos morts. Et moi, il se trouve que dans ma vraie vie, je fais des rencontres un peu de ce type-là. Et je me fais aborder par des hommes depuis très longtemps. Et j'ai mis du temps, mais à un moment donné, j'ai compris. Enfin, une amie m'a aidé à le comprendre, que peut-être ces hommes me parler d'ailleurs. Et je raconte ça dans le roman parce que dans mon histoire personnelle, le papa de mon fils est décédé quand mon fils avait 3 ans et demi. Et donc, le fait d'être abordé, qui est une des grandes questions du féminisme, en fait, est-ce qu'il faut être abordé dans la rue par les hommes ? Elle m'a toujours troublée, cette question, puisque moi, les hommes qui m'ont abordé, pas tous, hein, mais certains, étaient... en tout cas, je les perçois, je les ai perçus comme des messagers, parce qu'ils me disent des choses qui m'éclairent. Donc, j'ai eu la sensation que les sujets se croisaient entre le féminisme, la littérature japonaise qui invite les fantômes, et ma vie qui me propose des fantômes. Voilà.
Fabienne, vous avez envie de réagir?
Oui, les fantômes, c'est la perte aussi. On est fait, on se construit avec des pertes. Donc, la perte, il faut l'accepter aussi. Il faut y réfléchir. Il faut l'absorber et il faut non pas la combler et la fuir, pas du tout. Il faut au contraire lui faire une place. Les Japonais font de la place même dans leur assiette au vide. Et ils ont raison, vive le vide. Nous, occidentaux, on a très peur du vide. Il faut non seulement l'affronter, mais c'est une belle chose à laquelle il faut faire de la place, je crois.
Dans la littérature japonaise, puisqu'on était sur l'ambivalence entre grandir et vieillir, il y a aussi quelque chose d'un suspendu, d'un temps qui n'est pas si linéaire qu'en Occident. Vous jouez aussi sur cette notion ?
Oui, j'y fais référence dans la partie journal, d'ailleurs aussi, quand Andrei Makin me fait cette réflexion sur la vieillesse, je confronte l'anecdote à mes proches. Et une de mes proches me dit la question du vieillissement au Japon ne se pose pas parce que le temps est circulaire. Et dans la perception du temps est circulaire. Donc, c'est vrai que les Japonais traitent leurs vieux très très différemment de nous, parce que pour eux, c'est comme l'eau du fleuve, les feuilles de l'arbre.
Toutes les civilisations, autres que les nôtres, les civilisations africaines sont très 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 respectueuses, et vénères les anciens, évidemment. Il y a ce fameux proverbe sur les bibliothèques, bien sûr.
Donc oui, j'en parle dans la partie journal, et puis il y a des références de romans qui traitent de ça, de romans japonais. Hein.
On va peut-être prendre des questions, en tout cas une, on a peut-être le temps d'une ou deux. Alors Catherine, Fabienne, on retient son souffle. Parce qu'on a, j'ai eu une rencontre avec Catherine et Fabienne il y a 2 mois. Les questions étaient un peu particulières. Donc, on est suspendu à vos interventions. Non, c'était vraiment particulier. Vous pouvez y aller. Hein, ça... Alors, madame, ne levez pas la main pour vous caresser les cheveux parce que j'ai vraiment cru que vous aviez une question à poser.
Non, mais c'est qu'on a tout dit. Hein.
Ah, ça y est. Attendez, madame, on vous apporte un micro. Là, juste, levez la main. Voilà, juste devant, oui.
Je voulais vous demander à chacune, qu'est-ce qui vous pousse à écrire ?
Ça, c'est une question très très vague, très vaste, que je me pose tous les matins et tous les soirs. Je n'ai jamais la réponse, mais j'accepte les questions sans réponse. Moi, je dirais que pour moi, quand j'écris, ce que disait Muriel tout à l'heure, l'art ou l'écriture est une façon de s'agrandir intérieurement. La vie est démultipliée, la vie est dilatée. J'ai pas seulement ma petite vie un peu mesquine, j'en ai beaucoup plus, et c'est un endroit où tout est l'espace-temps est agrandi et que je recherche. Ça m'aide à vivre, ça m'aide à vivre.
Je pense que c'est une question qui a des réponses différentes selon les moments de notre vie d'écrivain. J'ai la sensation que ça me permet de renommer, de reformuler, de re-raconter, comme je disais tout à l'heure, les grandes émotions de nos vies. J'ai l'impression que, par exemple, mon troisième roman, N'oublie pas les oiseaux, qui raconte l'histoire avec le papa de mon fils dont je vous ai parlé tout à l'heure, je me suis aperçue que de la re-raconter, je lui donnais une force, et je lui donnais dans ce récit, tout en étant extrêmement lucide et réaliste sur les faits, la façon de la regarder la repoétise d'une certaine façon et la rend supportable. Voilà.
Je me rappelle quand j'étais justement en classe préparatoire, je lisais les lettres à un jeune poète de Rilke, et où il dit en gros, si vous pouvez faire autre chose qu'écrire, n'écrivez pas, quoi. Et c'est vraiment ça. C'est, je crois qu'on le fait vraiment parce qu'on n'arrive pas à faire autre chose. Et moi, j'adore lire. Hein. Je suis vraiment, tous les écrivains ne lisent pas, mais j'ai toujours aimé lire, et je peux pas vivre. Je peux pas vivre sans lire et sans avoir. J'ai vraiment besoin quotidiennement de retrouver un livre qui me plaît. Sinon, je suis toujours un peu au bord, pas de la dépression, mais de la déprime. Quoi. C'est très difficile de vivre. C'est le compagnon. Quoi. C'est vraiment ce qui me protège de la solitude, c'est la lecture. Donc, mais est-ce que je peux seulement vivre en lisant ? Ben non. Si j'écris pas, le temps, vous voyez, je sais pas comment le dire, le temps me paraît tellement vide, je sais pas comment faire autrement, quoi. Voilà. Donc c'est finalement ce qui me rend le plus heureux, c'est des réponses très très personnelles. Vous voyez, c'est peu importe finalement que ça me rende heureuse ou pas, c'est pas la question, ça vous concerne pas, mais c'est vraiment, c'est parce que j'arrive pas à vivre autrement, quoi. Voilà, j'arrive pas à vivre autrement. C'est la seule, c'est vraiment la seule raison. Et puis après, bon, bah après, le travail de l'écriture, c'est passionnant, c'est vraiment un travail, hein, c'est très ardu, c'est voilà, je ne sais pas si j'ai une réponse.
Oui. Oui. Une deuxième et dernière question.
Un homme en plus.
Au premier rang.
Au premier rang, oui.
Oui, un homme, oui, oui.
Vous n'êtes pas obligé d'être un homme. Apparemment, on peut choisir aujourd'hui.
Oui, donc, non, non, je confirme, je confirme. Voilà, non, pas de, voilà, pas de d'ambiguïté de mon côté. Non, c'était quelques remarques en fait par rapport à la loi française. Moi, je suis médecin, donc j'avais écrit une thèse de psychiatrie de la personne âgée, donc sur le vieillissement, justement la vieillesse. Et alors, ça m'intéresse beaucoup, hein, tout ce que vous avez dit. Je trouve ça passionnant. Et alors, en travaillant, j'avais appris que la loi française définit une personne âgée comme une personne dont l'âge est supérieur à la moyenne de la population dans laquelle elle vit, soit en France, c'est 41 ans. Donc, c'est quand même intéressant à savoir.
On est toutes des vieilles, alors. Hein,
toutes très, très vieilles.
Donc, c'est quand même assez intéressant. Après, dans vos réflexions, ça m'a fait beaucoup penser à un petit livre de philosophie de François Julien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les transformations silencieuses », et justement sur la question du vieillir, c'est une rupture, en fait. Mais ça se fait toujours par un mouvement réflexif sur soi-même. Vieillir, c'est la... Enfin, il y a le processus du vieillissement, c'est la transformation silencieuse, c'est ce qu'on voit pas, en fait. Hein. On vieillit, mais on s'en rend pas compte. Et ça, c'est ça qui est assez terrible, parce que le vieillir, c'est une rupture. C'est le moment où on s'en rend compte, justement. C'est la photo qu'on reprend 10 ans après, et là, on voit qu'on a changé. On a moins de cheveux, souvent, pour les hommes. On a plus de rides. Et c'est ça qui est assez, comment dire, assez violent, en fait. Parfois, c'est une violence. Mais je crois pas que ce soit que ça. Pour ça, le vieillir et le grandir, c'est vrai qu'il y a quand même une distinction à faire. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Après, pour finir, juste sur la question du masculin, hein, de l'homme, je suis pas totalement d'accord avec ce que j'ai entendu. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'homme blanc, voilà, cisgenre, voilà, hétérosexuel. Mais moi, je sais pas. Vous l'avez déjà rencontré, vous ? Enfin, je sais pas. Non, mais c'est vrai. Hein. D'ailleurs, on pourrait dire la femme blanche ou la femme noire ou l'homme noir. Enfin, moi, je sais pas. C'est toujours une manière de réduire le réel à quelque chose de Et c'est ça le danger, en fait.
Mais je crois que vous êtes parfaitement d'accord. Là, ouais. ce que les invités décrivaient, oui. C'était un état de pensée actuel assez, mais navrant, si je peux m'exprimer,
oui.
et que vous déplorez, en tout cas.
Mais en tout cas, il y avait quand même quelque chose derrière qui n'était pas juste une idée ou un préjugé. Par exemple, j'avais une amie qui avait fait une recherche aux États-Unis, donc statistique, sur l'envoi, par exemple, des nouvelles pour être publiées dans les magazines. Et c'était très frappant à quel point les hommes, je ne sais pas quel blanc, noir, en tout cas les hommes, qu'on envoyait, il y avait un rejet, mais ils continuaient à envoyer, et les femmes, après 2 ou 3 rejets, elles arrêtaient. Et donc il y avait vraiment toute une étude, bon, je me rappelle, il y avait des chiffres derrière, et ça c'était quelque chose d'assez fascinant, voyez, qui relevait pas seulement
parce
de
que c'est leur mère, c'est leur mère qui font les envois.
c'est vrai que c'est possible. Faut creuser.
On va accabler les mères maintenant.
Non, mais c'est vrai, par exemple.
Les mères donnent souvent plus confiance à leurs garçons. Hein.
C'est vrai.
Il faut le reconnaître.
Oui.
Là, il y a une éducation là. Des mères aussi à faire.
Oui.
Et je me demande s'il n'y a pas du côté féminin un sentiment de culpabilité, de façon générale, qui est plus fort. Et d'ailleurs, dans mon roman, il y a un moment où mon personnage, qui est si souvent abandonné, Clarisse, elle entend à la radio, sur France Inter, une émission sur l'abandon, où il y a un psychologue qui parle de la structure de l'abandon et comme quelque chose de transgénérationnel. Et elle s'aperçoit à ce moment-là qu'elle fait partie d'une lignée de femmes abandonnées. Sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Et c'est extrêmement déculpabilisant. Donc c'est un moment dans le roman où elle grandit. En fait, où elle cesse de culpabiliser pour ses abandons successifs. C'est pour ça que c'est pas de sa faute. Et il y a vraiment la nécessité chez les femmes d'une déculpabilisation, en quelque sorte. Voilà. Enfin, moi, je suis pas psychologue, donc je parle uniquement.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans le domaine de la médecine, la médecine se féminise. Et pour autant, dans les carrières universitaires, donc au niveau de la visibilité, il y a encore un manque de femmes. Et c'est vrai qu'il y a quand même, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, il y a un moment il y a quelque chose qui ne se fait pas à un moment donné. Il y a qui ne se fait pas, alors que pour autant, la population se féminise, mais c'est pareil dans la justice. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose encore qui bloque.
Et du côté, vous dites la médecine féministe, qui est tout à fait vrai, mais parlons des chirurgiens et chirurgiennes. Est-ce qu'il n'y a pas encore une majorité d'hommes je me rappelle une blague que j'ai oubliée, je ne me rappelle jamais les blagues. Mais dedans, il fallait trouver, il y avait une espèce de devinette et quelque chose qui était juste impossible. Je ne me rappelle plus quelle était la blague, mais impossible parce que la personne qui entendait la blague n'arrivait pas à penser que le chirurgien pouvait être une chirurgienne. Donc il y avait, du coup, la réponse n'apparaissait pas.
Ça, c'est réel. Enfin, pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec une de mes collègues. Quand elle était jeune étudiante en médecine, voilà, elle allait dans la pièce et forcément, elle ne pouvait pas être médecin. Et c'était... c'est où elle venait avec un de ses collègues et son collègue, c'était le docteur, ou elle, c'était l'infirmière. C'était vraiment un archétype qui est ancré, alors que...
Quand même, hein, vous voyez.
C'était quand même assez édifiant, oui. Après, je pense que c'est voué à changer. Pour les chirurgiens et les chirurgiennes, je saurais pas si ça rentre dans la féminisation de la profession.
Mais donc, nous sommes d'accord,
quand même. Oui.
Les plafonds de verre sont toujours là. Ouais. Ils sont très dangereux parce qu'on ne les voit pas, évidemment. C'est du verre, donc... Apprenons à les débusquer.
C'est justement cette histoire de confiance. Je pense que nous n'avons pas le réflexe de nos propres capacités. Moi, c'est vraiment un des sujets qui me passionne. Et pour terminer, il y a une anecdote aussi de les conservatoires.
les orchestres plutôt avaient fait une audition pour, parce qu'ils pensaient que beaucoup de musiciens étaient blancs et que il y avait peut-être une discrimination inconsciente. Donc ils ont fait une audition derrière un paravent. Les musiciens venaient, se mettaient derrière un paravent et jouaient. Et le jury sélectionnait juste à l'oreille.
Ah, c'est formidable.
Ouais. Et la conclusion de cette expérience a été que ils avaient sélectionné beaucoup plus
de femmes.
De femmes.
Extraordinaire. Donc,
Sur cette note d'espoir.
La note.
C'est ça. Je voudrais remercier Fabienne Jacob pour Ma meilleure amie, publiée chez Buchet Chastel, et vous signez sur le stand de Buchet Chastel là en sortant, n'est-ce pas? Oui. Catherine Cusset, La définition du bonheur, publiée chez Gallimard. Catherine, j'aimerais bien vous avoir en co-animatrice de façon régulière. Vous êtes épatante. Et Muriel Magellan, Géante, publiée aux éditions Miel et Barreau. Vous signez chacune sur vos stands. Merci à vous tous pour votre attention. Merci.